Ben, je vous l'avais dit plus tôt, on finit cette émission avec une entrevue avec Serge Savard et Philippe Quentin à l'occasion de la biographie écrite par Philippe à propos de M. Savard. Bonsoir, vous deux.
Salut, Patrick.
Merci d'être ici en studio. Serge Savard, écoutez, avant de parler de hockey, ce qui m'a frappé dans votre biographie écrite par Philippe Quentin, Serge Savard, Canadien jusqu'au bout, c'est l'influence de vos parents, Marie-Berthe et Laurent. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris, vos parents, qui vous sert encore?
Ben, comme je l'ai bien dit dans le livre, papa, il était une personne publique. Mon père était un bâtisseur. Il est parti de Saint-Alban, côté de Portneuf, avec son père. Ils sont venus bâtir une beurrie à Landrianes. Il y avait beaucoup de cultivateurs, des nouveaux cultivateurs qui venaient du comté de Portneuf. Puis mon grand-père, il a eu à un moment donné 7 beurries. Alors, ils ont dit, ben viens donc en construire une ici. Alors, papa, c'était un entrepreneur. Il était un politicien.
Maire du village.
Il était maire, je ne sais pas combien d'années, là, 15-20 ans. Il était préfet de comté, organisateur politique. Puis alors, j'ai vécu là-dedans. Puis c'était une personne très généreuse. Puis il me disait toujours, tous les cultivateurs, il en avait une cinquantaine, une centaine. Puis il disait toujours, j'ai jamais perdu une scène avec personne. Ils étaient presque tous endossés. À un moment donné,
lorsqu'il y a
des prêts à banque, ouais. J'ai jamais perdu une scène. Puis c'est toujours été des poignées de main. Il m'a toujours dit ça. Pas besoin de papier.
Ouais.
Puis papa, il a été dans des levées de fonds, Caritas, comme tu as vu c'est à travers le comté. C'est un gars très influent, puis généreux, puis bon. Puis moi, ben, mon père, j'ai travaillé avec aussitôt que j'étais capable de faire quelque chose, je travaillais avec lui. On demeurait en haut de la beurrie, puis après le feu, juste en arrière. Puis j'ai toujours travaillé avec lui, la livraison du beurre, tout se faisait pour nous autres mêmes, avec mon père, dans chacune des épiceries. Je me rappelle encore des noms de tout le monde. Alors, sa grande générosité, puis quand je suis arrivé, pour lui, l'éducation, c'était très important. Puis le seul qui s'est pas rendu loin, c'est moi. mes deux sœurs, puis mon frère Nathan, ils ont tous des degrés universitaires, ils ont tous des bacs, puis... Il disait, à cet âge-là, il laissait l'école en 5e, 6e, 7e année pour aller travailler. Puis cette génération de monde-là, il disait, ben moi, j'ai pas eu d'éducation, mes enfants vont en avoir. J'ai entendu ce phrase-là, j'aurais 200 fois.
Ouais.
Fait que, puis quand j'ai quitté à l'âge de 15 ans, j'étais en 2e année, j'étais au pensionnat au collège de Rouen, en 2e année de mon cours classique en syntaxe, puis... là, je me fais dire, ben, je suis invité par le club de hockey canadien. Il n'y avait pas de sport-études. Le camp d'entraînement, c'est du 15 septembre au 15 octobre. Puis le père qui est en charge là-bas, mon tuteur, là, le père Iberdi, il dit, si tu y vas, reviens pas. Ça fait que là, je suis pris dans un dilemme, puis je ne suis pas sûr de rester.
Ouais.
Puis ma mère veut pas. Ma mère veut que je reste pensionnaire. Puis il y a juste mon père qui est venu me voir, puis il a dit, toi, qu'est-ce que tu veux faire? J'avais 15 ans. Là.
Puis c'est une question surprenante pour un gars qui valorisait les études comme ça.
Mais, oui, puis moi, ça m'a pris 5 secondes pour répondre. Ouais. Tu sais, j'ai dit, moi, je veux y aller. Ben, il dit, vas-y. Puis, en tout cas, je suis jamais revenu. Là. Je suis venu pour aller chercher ma valise au pied de mon lit. Mais à partir de l'âge de 15 ans, mais je suis content de ça. Mais ça aurait pu être autrement. J'ai jamais eu besoin d'un dollar de mon père. Mais j'étais autonome à l'âge de 15 ans.
Ouais. L'autonomie, c'est une valeur qui vous enseignait.
Oui.
Puis tu prêchais auprès de vos sœurs aussi.
Puis, tu sais, des fois, je regarde mes petits-enfants, là, 15 ans, tu câlines. J'avais cet âge-là quand je suis parti chez nous, là. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est encore papa, puis les devoirs, puis tout ça. Puis moi, j'ai tombé à 15 ans dans une pension, là. Il y a juste le premier soir, la première fin de semaine, j'ai tombé tout seul, j'avais pas d'amis. Puis j'ai pleuré. Là. C'est la seule fois, puis après cette fin de semaine-là, c'était fini. Là.
Philippe Quentin, t'as plongé dans la vie de Serge Savard. C'est une vie riche, parce que, bon, c'est d'abord lié aux Canadiens comme joueur, comme directeur général, homme d'affaires, philanthrope, etc. Mais parle-moi de ce que t'as découvert sur les racines abitibiennes de Serge Savard. Comment ça l'a façonné, cet homme-là?
Ah, ben profondément, Serge vient de parler de son père et toute la famille, ses sœurs que j'ai interrogées aussi, son frère. Quand on parle de Laurent Savard, là, on parle de quelqu'un qui a été fondamental dans leur vie, qui a laissé une empreinte qui est très, 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 très forte. J'ai eu la chance d'accompagner Serge à Landrianes en juillet 2018. C'était le centième anniversaire de la petite municipalité. Serge était un invité d'honneur pour les fêtes qui avaient été organisées à ce moment-là. Et c'est là que j'ai vu combien les racines abitibiennes de Serge étaient profondes. D'abord, il connaissait encore des tas de gens. Puis ceux qui connaissaient pas parce qu'ils étaient plus jeunes, « Ah, t'es le fils de, puis t'es la fille de. » Alors, il savait les noms d'à peu près tout le monde. Et ça a été pour moi très impressionnant parce que ça le reconnectait profondément à ses racines.
Serge Savard, moi, j'ai rencontré quelques hommes de hockey dans ma carrière pour des entrevues, puis je le dis sans aucun mépris. Et ce qui m'a frappé souvent, c'est à quel point ces hommes-là sont isolés dans un silo. C'est-à-dire que parle-leur pas de politique, parle-leur pas de showbiz, ils sont hockey, hockey, hockey. Et vous, ce qui transparaît tout au long de la biographie, c'est à quel point vous êtes un homme impliqué dans votre milieu. À 70, vous vous impliquez en politique, vous prêtez main forte à un candidat de l'Union nationale, je pense. Mais vous êtes toujours là à nouer des relations. Vous êtes très informé de ce qui se passe dans la société. Je veux dire, vous êtes un homme, vous avez été un homme de hockey, mais d'abord avant tout, vous avez été un homme de relations.
J'ai eu un journal. J'ai parti à un hebdomadaire, L'Image de la Rive-Sud.
OK.
80 quelques mille copies. Là. J'ai parti ça, moi, j'avais à peine 30 ans, là. J'ai appris à. J'ai toujours été un gars du peuple, mais j'ai appris à aller rencontrer, à aller vendre de l'annonce publicitaire, à faire affaire. Les politiciens, ils aiment ça, un journal, hein, surtout un journal local. Aussitôt que tu deviens très populaire quand tu es propriétaire d'un journal.
Mais pourquoi vous ressentiez ce besoin-là? Je veux dire, vous étiez joueur du Canadien. Vous auriez très bien pu juste faire ça.
Mon père était un entrepreneur. Puis moi, j'ai investi à bas âge dans l'immobilier.
Oui.
Puis j'ai continué. D'ailleurs, quand Philippe venait me rencontrer dans la chambre, on parlait plus souvent de politique que de hockey. Là. Moi, on a vécu les référendums, on a tout vécu, puis j'essayais de savoir quel bord il était. Puis j'avais de la misère.
Vous le disiez pas.
mais c'est ça. Je pense que j'ai tout simplement suivi le même chemin que mon père, excepté que j'ai pas fait réellement de politique à cause de mon emploi. Je pense d'être une personne généreuse. Je viens de donner 400 000 $ sur 10 ans à la Corporation Études Sport de l'Université de Sherbrooke. Mais ça fait 10 ans que je suis avec eux et qu'on donne 200 000 par année avec des levées de fonds que j'ai jamais arrêté de m'impliquer socialement. Parce que je crois fermement qu'il y a trois choses importantes. C'est l'éducation, la santé et la pauvreté. Je pense qu'on fait un très mauvais job dans la société. Faut que l'écart se rétrécit, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis actuellement.
Ça a Pourquoi c'est important, vous pensez?
Parce que s'il y a plus de pauvres, si on ne s'occupe pas de la pauvreté, ben, à un moment donné, il y aura une révolution. On a juste à lire l'histoire des peuples. Ce qui arrive, c'est quand la richesse est toute à la même place, il arrive une révolution. Puis pour faire vivre notre système qu'on a actuellement, ben il faut on a besoin de tout le monde.
Mais Philippe, t'as côtoyé M. Savard quand il était joueur, quand il était directeur général?
Pas quand il était joueur. Je l'ai connu comme directeur général.
Oui, c'est vrai. Excuse-moi, je te vieillis. Mais ce niveau d'éveil-là face à la société, c'est pas quelque chose qui est hyper répandu dans le monde du sport. Moi, je me trompe. Dans le sport professionnel,
non, c'est unique. C'est unique. Et puis, c'est ce qui fait la particularité de Serge. Serge, c'est une personne multidimensionnelle. Et tout au long des entretiens qu'on a eus pendant le livre, ça a été un cours d'histoire aussi, un cours d'histoire du Québec. Mmh, et d'ailleurs, Serge, par exemple, quand il a joué avec les Jets de Winnipeg, il s'est intéressé profondément à tout l'épisode de Louis Riel. Et il a raconté cette histoire-là à de multiples journalistes. Il y a même une anecdote dans le livre. Tout à coup, un soir, après un souper un peu arrosé, Serge amène des journalistes de Montréal sur la tombe de Louis Riel à Saint-Boniface.
Le leader métis qui a été pendu.
C'est ça. Il dit à un journaliste anglophone, agenouille-toi et demande pardon.
Parce que c'était les fêtes du centième anniversaire de Louis Riel. Le centième anniversaire arrivait, puis il y avait des fleurs sur la tombe la journée longue. Là. Puis j'avais emmené, j'étais gérant à l'époque, puis j'avais emmené les journalistes manger à un restaurant qui s'appelait La Vieille Gare à Saint-Boniface. C'est des belles périodes, puis j'ai vécu 2 ans hors Québec, j'ai les Franco-Canadiens,
j'ai joué à Winnipeg ou Manitoba.
Quand j'ai regardé Mme Bombardier l'autre soir, là, je lui ai dit à un moment donné, durant un commercial, j'ai dit, mais j'ai été, moi, je suis pas comme ça, là. J'ai participé à des levées de fonds. J'ai été à Corve le 2 ans comme président d'honneur à Francofonds, qui ont rendu maintenant à 20 millions. C'est moi qui ai participé à la première marche, au premier fonds, l'A1 du Francofonds à Saint-Boniface. Je connais les francophones hors Québec. J'ai beaucoup d'amis. J'ai eu un club de hockey dans les Maritimes. Je connais beaucoup le Nouveau-Brunswick. Alors, les francophones hors Québec, là, je vais vous dire qu'ils ont travaillé bien plus fort que nous autres pour garder leur culture et leur langue. Puis des commentaires que j'ai eus là, des francophones là, dans les années 50, là, ils n'avaient pas le droit d'enseigner le français là, dans les écoles. Ils cachaient leur volume français, puis ils ont éduqué tout leur monde en français. Quand l'inspecteur arrivait, on cachait tous les volumes. Là. Ça fait pas longtemps, là, ça. Là.
C'est un autre élément qui transparaît dans la biographie Serge Savard canadien jusqu'au bout. C'est comment, pour vous, le respect du fait français, c'est important. Vous étiez à Houston, dans les ligues mineures, puis là, il y a des joueurs anglais qui disaient « Non, les francophones ne devraient pas parler français quand on est là. » Ça vous a irrité. Après ça, les Bruins de Boston, dans un match, vous le mentionnez, écœuraient les francophones, les insultaient. Après ça, quand vous êtes DG, super important pour vous le fait français, ça a teinté votre vie, ça, cette fierté-là.
Bien, tu sais, mon père, ce qu'il nous a donné, premièrement, à cette époque-là, là, les petits villages francophones hors Québec, là, on n'a pas vécu beaucoup, on n'a pas connu les anglophones, excepté en Abitibi, peut-être à Rouyn-Noranda, qui avait la mine, mais c'était 1 000 000 de milles de chez nous, là, 70 000 à cette époque-là, là. On n'allait pas là souvent. Là. Puis il y avait un nationaliste qui était très imprégné dans la population, puis mon père en était un. Il a même voté Bloc à un moment donné à Ottawa avec André Laurendeau à l'époque. Tu sais, c'était francophone, puis c'était un peu pour ça aussi, c'était beaucoup Union nationale, parce que l'Union nationale...
Qui était un parti nationaliste.
Qui était un parti très nationaliste. Alors, j'ai venu au monde dans l'Union nationale.
Vous étiez un bleu.
C'est pour ça que je me suis pogné souvent avec lui, là, parce que lui, il parle toujours la grande noirceur. Il dit, Philippe, t'as pas connu ça, toi, la grande noirceur. J'ai dit, moi, j'ai connu la clarté, j'ai vu arriver l'électricité, puis la télévision, puis... J'ai vu mon père allumer le fanal là, dans les années fin des années 40, puis début des années 50. L'électricité n'est pas arrivée encore.
Et dans le livre, vous mentionnez que le Canadien de Montréal s'est distancé de la population francophone du peuple. Est-ce que de nos jours, c'est encore important? Parce que je regarde, l'aréna est plein. Les codes d'écoute sont bonnes. Est-ce que c'est si important?
C'est ça. Tu peux... J'avais donné comme consigne à Bergevin quand on l'a engagé, parce que je l'ai interviewé 2 fois avant, puis j'ai dit, oublie jamais une affaire, le peuple va te laisser gagner en anglais, mais te laissera pas perdre en anglais. Puis moi, quand je suis arrivé comme gérant général du Canadien, il y en avait une couple de francophones. Actuellement, il y en a deux, puis les deux sont venus par un échange.
Oui. Alors, pas repêché.
Moi, j'avais 4 dépisteurs. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, là, mais moi, j'ai vécu avec la moitié du club qui venait du Québec, pas nécessairement francophone. Mon messieurs, c'était pas un francophone, qui venait du Québec, et qui passait l'été au Québec. Puis les étés là, où on n'avait pas gagné, là, on passait à des étés misérables. Puis je voulais recréer cette atmosphère-là. Tout le monde me demandait qu'est-ce qui est arrivé. Aujourd'hui, là, le lendemain de l'élimination, là.
Les gars partent partout.
Ils sont à Moscou, ils sont à Stockholm, ils sont partis le lendemain, puis ils voient pas un journal, ils ne voient rien, ils subissent rien. Leur effort, puis nous autres, on nous demandait tout le temps, allez-vous gagner la Coupe Stanley l'année prochaine? Aujourd'hui, on dit, allez-vous faire les séries éliminatoires? Là, ça a changé, la barre a baissé en maudit, là. Puis l'an passé, elle a baissé encore d'un cran, on s'est fait éliminer, puis on fait des high-fives, puis on était contents. Tu sais, on a dit, on a eu une bonne saison.
Même si on n'a pas fait.
On n'a pas fait. C'est vrai qu'ils ont eu une pas pire saison, mais c'est pas une réjouissance de ne pas faire les séries, là, puis de dire qu'on a bien joué, là. Quand on perd, on n'a pas bien joué.
On est avec Serge Savard et Philippe Quentin. On parle de cette biographie Serge Savard, Canadien, jusqu'au bout. De retour après la pause. Bon, de retour pour le dernier droit de l'émission avec Philippe Quentin et Serge Savard. On parle de Serge Savard, Canadien, jusqu'au bout. La formidable biographie de notre collègue Philippe Quentin. Serge Savard, l'histoire du club a été bâtie avec des gens comme vous. Vous représentez l'époque glorieuse. Dans le livre, vous le mentionnez, la place des anciens dans le Canadien moderne, disons que c'est une toute petite place.
Ben, on a, je veux pas pointer personne du doigt, mais Ronald Coré a fait un job extraordinaire avec les anciens.
Il avait fait des ponts avec les anciens.
Il a fait des ponts, il a ramené les anciens. Mmh. Ronald a ramené les anciens. Il a ouvert une chambre pour les anciens. Il a emmené des billets, je pense qu'il a mis 10 paires de billets à la disposition des anciens. Il a fait un job extraordinaire. Mais on a encore la chambre des anciens. Mais tous les anciens, vous avez vu les témoignages de Richer et compagnie, là,
c'est pas moi
qui le dis, là. Ils se sentent pas bienvenus. Vous avez vu dans le Journal de Montréal hier, je m'en venais, puis Marc Bergevin était à peu près 30 pieds. Je sais pas s'il me vu ou pas, mais il a quitté. Moi, dans mon temps, là, je ne ferais pas un détour pour pas rencontrer. Je ferais un détour pour aller rencontrer. Je ferais aller donner la main à Doug Harvey et à Bernard Geoffrion.
Ouais.
Alors, ça t'explique un peu la relation. Marc n'a pas connu, il n'a pas jamais joué avec le club de hockey canadien. Il n'a pas connu la belle époque du club de hockey canadien. Parce qu'on est une grande famille. Le club de hockey canadien est une grande famille.
Vous l'avez dit souvent dans les entrevues récemment.
J'ai eu mon tournoi de gars. J'avais 22 anciens Canadiens qui sont venus. On est une famille. On se rencontre. Quand on se rencontre, on se prend par le cou. On a Guy Lapointe hier, Guy Lafleur, c'est un de mes chums. On a eu des différends, mais Guy Lafleur, il m'a envoyé un texte pour me féliciter, puis me souhaiter bonne chance pour mon livre. Mm. On est tous mais il y a une petite chicane dans la famille. Il faut que ça se règle comme Ronald Coré l'avait réglé.
Vous êtes une famille, mais le Canadien actuel vous fait pas de grande place.
Ben, eux pensent pas ça. Eux pensent qu'ils font, parce que Réjean Houle, il est là. Réjean, c'est un gars que tout le monde adore. J'adore Réjean Houle. C'est un petit gars de l'Abitibi. J'ai joué avec. C'est lui qui fait le pont, puis c'est lui qui s'occupe des anciens Canadiens, puis il fait un job extraordinaire.
Philippe, pourquoi c'est important de faire la biographie de Serge Savard?
Ben, pour plusieurs raisons. Serge, d'abord, a été un acteur incontournable de notre scène sportive pendant 30 ans. Il a occupé des postes très, 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 très significatifs, directeur général du Canadien. Il a eu des expériences formidables. Puis moi, je trouvais que c'était plus qu'important, c'était fondamental qu'il dresse le bilan de sa vie, qu'il nous donne sa version des événements, qu'il nous dise son témoignage, comment il a vécu toutes ces années-là. Serge a 73 ans maintenant. Moi, je pense qu'il était temps qu'il le fasse parce que c'est un héritage qu'il laisse au Québec. Puis moi, je suis content, peu importe ce livre-là qui se vende. J'espère qu'il va bien aller, mais pour moi, c'est pas ça qui est fondamental. C'est que c'est une brique de plus dans ce grand édifice qui est de raconter notre histoire. Et je trouve que notre histoire au Québec, on la raconte pas assez, que ce soit au plan politique, au plan culturel, au plan sportif, au plan social. Il y a tellement de... Il y a les Américains que je trouve qui sont plus proactifs pour raconter leur histoire. Les Français sont plus proactifs. Nous, on dirait que parfois, on est un peu gênés. Alors, quand un gars comme Serge qui a eu une telle influence, une telle présence, il faut qu'il raconte ça. Puis le livre, ben, il servira peut-être à d'autres chercheurs après qui écriront, puis qui s'en serviront comme élément de recherche.
Ça s'appelle « Serge Savard, Canadien jusqu'au bout » par Philippe Quentin à propos de notre invité Serge Savard. C'est pas un livre juste sur le sport. C'est un livre qui raconte les intersections entre le social, entre l'histoire et le sport. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous voir.
Merci, Bernard.
Merci.
Merci.